France Culture.
Bonjour à tous. Iran-Israël, les suites de l'escalade. Deuxième jour de guerre ouverte après l'attaque aérienne massive d'Israël cette nuit contre Téhéran, baptisée Rising Lion. Les deux pays poursuivent ce matin cette escalade militaire qui fait craindre un conflit dans la région. On y revient en longueur avec Clément Terme, historien spécialiste de l'Iran, chargé d'enseignement à l'université Paul Valéry de Montpellier. Donald Trump voit les choses en grand pour le jour d'anniversaire de la création de l'armée américaine et pour son propre anniversaire, il s'offre un défilé militaire. Et puis c'est la journée mondiale du donneur de sang. Les stocks sont bas. Comment inciter à donner plus? Plusieurs solutions sont proposées, notamment au sein des entreprises. Téhéran brûlera si l'Iran poursuit ses tirs de missiles sur Israël. Avertissement du ministre de la Défense israélienne ce matin, 48 heures après le déclenchement de l'opération Rising Lion par l'État hébreu contre le régime des Mollahs. Pour l'empêcher de développer l'arme atomique, l'armée israélienne dit avoir tué 9 scientifiques du nucléaire. L'escalade se poursuit donc. Thibault Lefebvre, correspondant à Tel Aviv pour France Culture. Bonjour.
Bonjour.
Thibault, on apprend dans la matinée qu'Israël a déclaré que la guerre contre l'Iran est désormais sa priorité devant Gaza.
Oui, et c'était clairement l'inquiétude des familles des 53 derniers otages à Gaza, que la libération de leurs proches ne soit plus justement la priorité de leur gouvernement. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui avec donc cette annonce de l'armée israélienne qui désigne l'Iran comme le fond prioritaire et considère désormais Gaza comme une guerre secondaire. Et c'est un véritable tournant ici dans le débat public, mais aussi et surtout dans la mobilisation générale. Des dizaines de milliers de réservistes ont été appelés pour renforcer l'armée de l'air, le renseignement et quadriller le territoire. Leur présence permet de libérer des soldats pour protéger les frontières, et notamment au nord, où Israël semble craindre de nouvelles frappes en provenance du Liban et de Syrie. Des drones d'attaque ont été envoyés ce matin sur la Galilée, au nord donc. Ils ont été interceptés, rien de comparable évidemment, avec les vagues de missiles balistiques partis d'Iran hier soir. Des immeubles ont été éventrés, 3 civils sont morts, il y a des dizaines de blessés. Et ce matin, vous l'avez dit, l'État hébreu hausse encore le ton par la voix de son ministre de la Défense, Israël Katz. L'avertissement est limpide. Si Khamenei, le guide suprême iranien, continue de tirer des missiles sur les civils israéliens, dit-il, eh bien Téhéran brûlera.
Merci Thibault Lefebvre, correspondant à Tel Aviv pour France Culture. Le porte-parole de l'aéroport international Ben Gourion annonce par ailleurs ce matin sa fermeture jusqu'à nouvel ordre. Des mesures de vigilance aussi en France. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ordonne aux préfets de porter une attention particulière à la sécurité des lieux de culte, mais aussi des établissements scolaires. En Iran, le bilan de l'attaque s'élève à près de 80 morts, dont plusieurs responsables militaires de haut rang. Téhéran, qui de son côté attire de nouvelles salves de missiles contre Israël et qui promet des ripostes encore plus dures, si Avosh Ghazi.
Toute la nuit, jusqu'à 4h du matin, il y a eu des attaques dans Téhéran et dans la région de Téhéran contre notamment des bases militaires tout autour de la capitale iranienne, mais aussi l'aéroport de Mehrabad dans le sud de la capitale. Un incendie très important s'est déclaré donc vers 3h30-4h du matin dans cet aéroport, dans la partie militaire apparemment qui a été visée de l'aéroport Mehrabad de Téhéran. Il y a eu aussi des attaques dans la ville de Karaj, qui est située à 50 km à l'ouest de Téhéran. L'Iran a répondu par une vaste opération en lançant des centaines de missiles contre différentes cibles en Israël toute la nuit. Et aussi ce matin, l'armée iranienne a lancé des drones contre des cibles et des sites dans le nord de l'État hébreu. Le porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes a affirmé que c'était une partie des opérations décidées par l'Iran et que les opérations allaient se poursuivre et se durcir jusqu'à faire regretter, je le cite, le régime sioniste. Enfin, les autorités ont annoncé que 8 drones ou objets volants israéliens ont été abattus au-dessus de Téhéran ou à la frontière avec l'Irak, des drones d'espionnage donc qui survolaient la région.
Avosh Ghazi, cette escalade, on y revient avec vous, Clément Terme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Iran, chargé d'enseignement à l'université Paul Valéry de Montpellier. On en parle depuis le début de ce journal. L'Iran est affaibli, son état-major décimé. Parmi les victimes des frappes d'Israël, on retrouve notamment plusieurs hauts dignitaires de l'armée, des physiciens nucléaires. Est-ce que l'Iran a encore une vraie capacité de riposte, Clément Terme ?
Alors oui, l'idée d'Israël était effectivement d'affaiblir la capacité, notamment en termes de missiles balistiques, qui était la principale force militaire de l'Iran depuis les années 80. donc un investissement financier considérable et en termes de ressources humaines également, et de sites, de nombre de sites disséminés sur tout le territoire. C'est pourquoi même après les premières frappes, la République islamique d'Iran a été en capacité de tirer des missiles, même si tous les commandants de la force aérospatiale, ou la plupart en tout cas, avaient été éliminés. Donc cet affaiblissement quand même va avoir lieu parce que la République islamique va devoir utiliser ses stocks en raison de la distance géographique de plus de 2000 km. Et le désavantage qu'a la République islamique par rapport à Israël, c'est le fait qu'Israël a infiltré l'appareil de sécurité iranien et le système politique iranien. Donc on voit peut-être se dessiner, c'est le pari à mon avis israélien, le pari de l'épuisement de la République islamique et de ses capacités, ses réserves en missiles finalement.
Oui, rappelons que c'est au centre du pays qu'Israël a frappé sa cible la plus significative, le complexe nucléaire de Natanz. C'est un coup dur, on peut le dire, pour les ambitions militaires de Téhéran.
Alors oui, il faut distinguer le programme balistique, même s'il peut y avoir des liens, et le programme nucléaire qui officiellement a été civil. Mais Israël a décidé, du fait de l'affaiblissement de l'axe de la résistance depuis le 7 octobre, donc le réseau de partenaires non étatiques de l'Iran au Moyen-Orient, de s'en prendre finalement à la principale capacité de dissuasion iranienne, qui est cette force aérospatiale qui contrôle le lancement des missiles, le lancement des drones également. Et donc ça a été ça les cibles principales qui ont été désignées par Israël lors de cette campagne. Et en réponse, la République islamique a mis en œuvre ce qu'ils ont appelé l'opération Promesse Véridique numéro 3, après la première qui était en avril l'année dernière et la deuxième qui était en octobre, mais cette fois en utilisant pleinement les capacités du pays. Il ne s'agit plus d'un signalement stratégique, mais la République islamique se considère aujourd'hui en guerre.
En guerre, voilà, on est dans une autre dimension, hein, véritablement, vous le disiez. Il y a 2000 kilomètres entre les deux pays. C'est une opération qui ouvre une nouvelle ère dans la région, clairement.
Oui, parce que c'est un risque pour l'ensemble de la région, notamment si la réponse militaire iranienne ne se limite pas au territoire israélien et cible, ce qui est peut-être le cas au cours des prochains jours, on ne le sait pas encore. En tout cas, il y a une guerre psychologique là-dessus, une guerre de l'information, les bases militaires américaines, puisque la République islamique menace également les pays alliés militairement avec Israël. Et donc, on est quand même dans une dynamique d'escalade pour l'instant. Et ce sera très difficile d'enclencher une désescalade puisque l'attaque israélienne a eu lieu avant une réunion qui était prévue ce dimanche à Muscat entre les négociateurs iraniens et américains.
Et l'Iran qui est fragilisé en interne ?
Oui, tout à fait, parce qu'il faudra prendre la mesure de l'infiltration iranienne. On a vu qu'il y avait une base de drones qui a servi sur le territoire iranien contrôlé par Israël. Donc il s'agit d'une opération conjointe des services de renseignement israéliens et des forces armées israéliennes. Donc il faudra voir si cette infiltration est étendue et comment l'appareil de sécurité iranien et le système politique iranien va arriver dans un contexte de crise, de choc militaire externe à se réinventer peut-être parce qu'il y a aussi une contestation populaire très forte à l'intérieur du pays. Et donc là aussi il y a un pari israélien d'un effondrement et d'un changement de régime en Iran.
Ce qu'il faut s'attendre, voilà, pour les prochains jours, pour peut-être les prochaines semaines, c'est toujours cette escalade militaire qui va continuer. Hein, vous le confirmez, on peut pas s'attendre à autre chose qu'à ça.
Non, tout est possible. Ça dépendra aussi de la réponse iranienne. Si la réponse iranienne se limite au territoire israélien et ne vise pas les bases militaires américaines, cela pourra éviter la contention régionale. Mais dans l'hypothèse où la République islamique élargirait ses cibles en réponse, par exemple, à des frappes israéliennes sur ses infrastructures énergétiques, là, véritablement, on sera rentré dans une dynamique d'escalade.
Merci beaucoup, Clément Terme, d'avoir été avec nous, chargé d'enseignement à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Il en rêve depuis qu'il a assisté au 14 juillet sur les Champs-Élysées en 2017. Donald Trump aura son défilé militaire aujourd'hui à Washington. Alors, nous ne sommes pas le 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis, mais le 14 juin, jour d'anniversaire de la création de l'armée américaine et du président lui-même. Pour certains Américains, Donald Trump s'offre tout simplement un défilé pour ses 79 ans. C'est ce que pense en tout cas ce couple qui habite en Pennsylvanie et que vous avez rencontré, Sébastien Paour.
Un blindé de la Première Guerre mondiale, des jeeps du débarquement, plus de 50 hélicoptères et des chars Abrams d'aujourd'hui, Jerian Burke ne voit là que l'ego démesuré du président républicain.
On n'a jamais eu un défilé comme ça. C'est pour l'anniversaire de cet homme qui est un peu narcissiste.
Jerian rappelle qu'il n'y a pas eu de défilé quand l'armée a fêté ses 200 ans en 1975 et qu'il n'y en a pas non plus le 4 juillet, jour de l'indépendance. Trump a clairement choisi la date de son anniversaire pour son mari Michael Klein, qui était sergent au Vietnam quand il avait 22 ans. L'actuel président Trump a dit un jour que les anciens combattants étaient des imbéciles et des perdants. Beaucoup de mes oncles ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient en France, ils sont rentrés chez eux et ils nous ont laissé le pays où on vit depuis. Et maintenant, ce président tente de bouleverser le monde. Il n'est pas le commandant en chef. C'est une honte. Le dernier défilé militaire à Washington remonte à 91, après la première guerre du Golfe. Celui d'aujourd'hui pourrait coûter 45 millions de dollars.
Et sur place, 7000 soldats, des dizaines de chars de véhicules de combat. Le président prononcera aussi un discours. Il y aura un feu d'artifice devant la Maison Blanche. L'accident du Boeing 787 d'Air India, il y a trois jours dans le nord-est de l'Inde, a fait au moins 279 morts. Nouveau bilan publié ce matin, ce qui en fait la catastrophe aérienne la plus meurtrière au monde depuis 2014. La situation n'est pas vraiment confortable. Les mots, l'alerte ce matin du président de l'établissement français du sang, cette journée mondiale du donneur de sang, pas assez de réserves, moins de 84 000 poches de globules rouges en réserve, alors qu'il faut atteindre 110 000 poches d'ici au 14 juillet, pas assez de dons non plus. Alors pour assurer une mobilisation régulière des donneurs, des solutions sont proposées, comme cette proposition de loi transpartisane votée en première lecture à l'Assemblée nationale en début de mois. Elle vise à favoriser le don de sang en entreprise, Jeanne Stémard.
Entre la vie professionnelle, familiale et personnelle, difficile de trouver un créneau pour donner son sang, son plasma ou ses plaquettes. Avec cette proposition de loi, plus d'excuses, à part pour raison médicale ou peur bleue des aiguilles. Les salariés pourront faire un don sur leur temps de travail. Mais attention, Pierre Cordier, député Les Républicains des Ardennes, auteur du texte de loi, le précise. Il n'est pas question de s'y rendre à l'improviste.
Il faudra prévenir trois jours avant. L'autorisation d'absence sera délivrée par écrit par l'employeur. Il y aura une preuve sur place que le salarié et bien aller donner son sang. Cette preuve sera donnée à l'employeur et bien entendu l'heure ou l'heure 30 d'absence sera rémunérée par l'employeur.
Le nombre d'absences sera limité à 8 par an et l'employeur reste libre de refuser si l'absence du salarié compromet l'organisation de l'entreprise. Pour Pierre Cordier, chaque don est un acte de solidarité.
Tout le monde peut avoir besoin de sang, de plaquettes ou de plasma aujourd'hui dans le cadre d'un problème médical, d'une opération, d'un accouchement.
Chaque jour, le FS a besoin de 10 000 poches de sang et chaque année, faute de dons suffisants, la France importe 65% du plasma des États-Unis. Pour l'établissement français du sang, cette proposition de loi permettrait de changer la donne. Frédéric Pacou, son président.
Ça va compléter ce que nous faisons déjà en termes de partenariat avec les entreprises, puisqu'on a déjà 10% de nos collectes mobiles, c'est-à-dire 3 000 collectes par an sur 30 000 qui se réalisent dans les entreprises.
La proposition de loi doit encore être examinée au Sénat. Pierre Cordier, l'auteur du texte, espère la voire effective d'ici la fin de l'année.
L'année dernière, plus d'1 500 000 personnes ont donné leur sang en France, selon le FS, un chiffre en baisse par rapport à 2023. Les dégâts des orages qui se sont abattus sur une grande partie de la France. Un homme de 68 ans est mort dans la soirée hier dans les Yvelines, victime de la chute d'un arbre frappé par la foule. À Paris, une femme est grièvement blessée. Pour ce qui est des dégâts matériels, 17 000 foyers restent sans courant dans le Périgord. Olivier Faure, officiellement réélu premier secrétaire du PS avec 51,15% des voix au deuxième jour du congrès du parti à Nancy. Sa victoire face à son concurrent Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, avait été actée à l'issue du vote des militants le 5 juin dernier. Mais les résultats dévoilés à ce moment-là n'intéressaient pas le vote de certains territoires ultramarins comme la Guadeloupe ou encore la Martinique. Et puis c'est le dernier jour de VivaTech aujourd'hui, salon international de la technologie au parc des expositions à Paris. 14 000 startups y exposent leurs dernières innovations, parmi elles Body O, une sorte sorte de robot américain qui pourrait aider par exemple dans les déserts médicaux. La météo avec de nouveau ces risques d'orage. Selon le dernier bulletin de Météo France, 11 départements du centre puis 4 départements de l'est passeront en vigilance orange à partir de cet après-midi pour risque d'orage. Côté température, le mercure va grimper en moyenne entre 30 et 35 degrés avec même 36 à 38 degrés sur l'intérieur du Var et de la Corse.